bienvenue à la 41e épisode de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Damien.
Salut tout le monde!
Et nous allons aborder en une deuxième phase le RGPD, puisque son application est imminente en Europe et aura des effets très sentis en Amérique du Nord. Et comme on peut déjà voir, la plupart de nos fournisseurs infonuagiques ou de cloud, tels que Google, Apple, Microsoft, commencent déjà à nous envoyer des modifications ou des clarifications à leur politique d'utilisation de leur service, qui est un impact direct du RGPD. Donc, en tant que Nord-Américain, nous allons être touchés. Et Damien va nous aborder ça en plus grande profondeur cette fois-ci.
Ouais, parce que là, c'est parti, hein, ça y est, hein, c'est le 25 mai 2018, on en parle, alors pas du RGPD exactement, mais en tout cas de ses protections de données depuis 1995, ensuite 2015, alors ça c'est pour la petite histoire, hein, rappelez-vous, 6 octobre 2015, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a validé l'accord Safe Harbor, hein, pour rappel, c'est juste les Américains qui disaient « Nous, les données européennes, on les rapatrie chez nous, et puis vous allez voir, ça va être super bien. » Sauf que au milieu de tout ça, il est arrivé un petit bonhomme fort sympathique, hein, rappelez-vous, Snowden, qui expliquait que « Ok, prenez les informations des Européens, mais je vous rappelle que la NSA, les services secrets américains, eh bien, vous regardez derrière les épaules et tout récupérer. » Donc, cette sphère de sécurité a explosé. Petite boule qui a fait « plouc ». Et donc, du coup, maintenant, ça y est, le RGPD est définitivement en place et définitivement partout en Europe. Le 25 mai 2018, tous les pays européens et les Européens seront censés être protégés par cette loi, par cette protection. Et ça va protéger, donc, semble-t-il, paraît-il, maintenant il faudra voir sur le long terme, hein, les données personnelles.
Mais c'est ça, qu'est-ce qu'une donnée personnelle?
Alors une donnée personnelle, bonne question Nico. Justement, une donnée personnelle, il faut vraiment se mettre ça dans l'esprit, parce que là aujourd'hui, notre podcast va surtout s'adresser à vous les internautes, hein, pour comprendre que aujourd'hui vous avez une armure et un bouclier qui doit vous protéger. Et donc, mettons-nous très rapidement dans la tête ce qu'est une donnée personnelle. Eh bien c'est une information qui permet d'identifier une personne physique. Toi, moi, nous, vous, Madame Michu, peu importe. L'important, c'est de se dire que cette donnée personnelle ne doit pas permettre aujourd'hui de vous pointer du doigt dans le numérique. Et le RGPD doit vous protéger sur ça. Alors, dans les données personnelles, on y trouve quoi? Des photos, votre adresse IP, votre numéro de téléphone, coordonnées GPS, on l'oublie celui-là, une empreinte digitale, un mail, votre nom de famille. Et déjà ça, c'est une donnée personnelle. Et c'est intéressant parce que maintenant, pensez-y, la prochaine fois que vous allez vous inscrire à un site internet, à un blog, à un forum, à un jeu concours, je ne sais trop quoi encore, en tout cas sur les internets, imaginez toutes les données qui vous sont demandées, nom, prénom, adresse, etc., etc. Eh bien tout ça, ce sont des données personnelles et le RGPD va protéger cette donnée personnelle. C'est vous. Et pour ça, il y a partout, maintenant, en Europe, eh bien, ce qu'on va appeler des entités, des autorités de contrôle. Nous, en France, on a la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés. Moi, je l'appelle la Grande Dame, la Gendarme de données. Au Luxembourg, on a le CNPD, ou encore en Belgique, on a la Commission de la Protection de la Vie Privée. Alors, pour info, pour le moment, et je dis bien pour le moment, parce que on entend d'ici et là en parler quand même un petit peu. Donc pour le moment, il n'y a pas d'autorité supranationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas une master monster CNIL. Il n'y a pas une Commission nationale informatique et liberté et des libertés pour toute l'Europe. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne va pas se mettre en place. Il y a un moment ou un autre, cette entité comme Europol, comme Interpol, se mettra en place parce que ça en fait du monde à protéger.
Il y a beaucoup, effectivement, oui? Il y a beaucoup de monde, puis dans la loi, il est mentionné qu'un effort de collaboration semi-forcé entre les nations, du moins, pour aider la protection du citoyen.
Oui, tout à fait, hein, cette coopération entre autorités nationales, on appelle ça le G29.
C'est effectivement très, très intéressant, et le spectre d'application géographique, parce que en tant que Nord-Américain, ou en tout cas dans mon entourage, j'ai des gens qui ont la nationalité française et canadienne. Dans quelle mesure la loi s'applique aux compagnies, s'applique par rapport aux individus, par rapport à tout ça?
Alors, j'adore ton exemple, Nicolas. Hein. C'est clair. C'est de se dire que vous avez une double nationalité, canadienne-française, belge-américaine, luxembourgeoise australienne. En français, on va dire, ça va être un beau merdier. Soyons très clairs. Parce que là, du coup, il faut rappeler que le RGPD, ce nouveau règlement des données privées et de la protection des données personnelles, eh bien, va s'impacter sur toute la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Européen, et donc une personne qui a une double nationalité, et donc aussi européenne, et donc aussi française, eh bien, il faut savoir que si ces données sont en France et qu'elles vont transvaser au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Australie, peu importe où, en tout cas hors de l'Europe, ces pays sont intégrés dans le RGPD. Ça veut dire que toutes ces entreprises qui vont collecter les informations hors du territoire européen sont assujetties à la réglementation du RGPD, donc à protéger correctement les données des Européens. Aussi à leur transport, ça veut dire, je veux changer de réseau social, ça veut dire que je veux changer de médecin, je veux changer d'entité économique de banque, par exemple, au Canada et je vais la mettre en Europe, en France. Eh bien, tout ça, c'est aussi contrôlé par le RGPD. Tout ça aussi est donc sous surveillance et donc sous protection. Autant dire que les prochains mois, après ce lancement de ce RGPD, vont être très intéressants à suivre.
Ah ben effectivement, le test de la courbe va être intéressant à ce compte-là. Et de ce que j'en comprends, c'est que si la société est en Europe, elle doit appliquer de façon universelle le RGPD. Et les compagnies qui sont en dehors de l'Europe, mais qui font affaire avec des citoyens européens, devront aussi appliquer cette même loi.
Ah ben clairement, hein, j'ai une boutique en France, ou j'ai une boutique à Québec, Toronto, Dallas, Pékin, Colombo, peu importe où, toutes les données qui sont collectées, si en plus elles contiennent, et surtout si elles contiennent des données d'Européens, clairement ça rentre dans le RGPD. Donc ça veut dire que si mon site à Colombo, hein, donc ça c'est en Asie, se fait pirater, on prend cet exemple-là, ou qu'il y a une base de données qui est perdue. On prendra tout à l'heure des cas concrets, on va lister des cas concrets de ce qu'il est possible de voir avec ce RGPD. Eh bien, si dedans j'ai des coordonnées de Français, de Belges, de Luxembourgeois, d'Européens en tout cas, je vais être obligé de les alerter. Je vais être obligé d'alerter les entités concernées. Je risque 4% de mon chiffre d'affaires international. Dites-vous que vous soyez petite entreprise ou monstre économique, Facebook, Google, on a beaucoup entendu parler de cela, mais parlons surtout des petites entreprises qui essayent de vivre grâce aux internets. Eh bien, si elles sont impactées, ça coûtera 4% de leur chiffre d'affaires à l'international, jusqu'à 20 millions d'euros, sans compter qu'il va falloir contacter tout le monde, on en parlera tout à l'heure. Voilà, je suis à l'étranger, mais je collecte et je gère des données d'Européens, je suis obligé de me plier au RGPD. D'abord, ça va me sécuriser, mais aussi, ça va sécuriser mes clients.
Ça va être un bordel. C'est juste de savoir dans quelle mesure la donnée est une donnée d'Européen. Ça va être déjà un casse-tête assez important pour ces différentes compagnies-là. Et pour revenir sur la double nationalité, les gens qui vont s'afficher comme des citoyens, disons, canadiens, mais qui sont en même temps des citoyens français, mais qui ne s'affichent pas comme tels sur les sites, ça va être un bordel monumental.
Ah ben ça va être très intéressant à suivre, là t'as complètement raison, c'est que je vais peut-être utiliser une adresse mail, je sais pas, bon, on va prendre un exemple Gmail, et je ne donne pas ma véritable adresse en France, sauf que tout ce que je fournis de mon IP à d'autres informations privées me trace clairement comme un Européen. Comment vont faire les entreprises qui seront impactées suite à une plainte, suite à un contrôle? Je te dis, hein, les 6-7 prochains mois vont être passionnants à suivre. Ouais,
effectivement, puis un peu pour faire un lien sur ce qu'on a déjà discuté précédemment, Facebook a justement évacué toutes les données de non-européens de ses centres de données européens, justement pour pas que ces données-là soient affectées par le RGPD.
Ah ben là, c'est un énorme business en plus. Hein. Il faut pas oublier qu'en plus, il y a énormément maintenant de sociétés. On prend l'exemple de Microsoft hein, qui a installé des clouds en Europe. Voilà, maintenant, les données d'Européens seront sauvegardées gentiment en Europe. Donc, bon, certes par une société américaine, mais elle se plie clairement au RGPD. Voilà, maintenant, toi et moi, comme ceux qui nous écoutent, la grande majorité, on sait ce qu'est le numérique, on sait comment ça se promène à droite à gauche. Ça va être passionnant, franchement, ça va être passionnant à suivre, d'autant plus que tout le monde en a entendu parler, qu'énormément d'avocats et de services juridiques sont sur les dents. On l'a vu avec les grands groupes hein, qui ont, depuis 3-4 semaines, diffusé un nombre très nombreux messages hein, en indiquant qu'ils suivent à la lettre RGPD. On rappelle juste, hein, l'un des plus malins dans ce petit lot, c'est quand même Facebook, qui a relancé son système biométrique en Europe, alors qu'il était interdit depuis 2012, en expliquant que, comme ils veulent se conformer au RGPD, eh bien toi, internaute européen qui utilise Facebook, si jamais tu veux relancer la biométrie, surtout n'hésite pas, donne-moi ta validation et tu verras, c'est super chouette. Voilà. Ils sont pas fous, ils sont pas nés de la dernière année, on sait très bien que le data, la data et les data que nous fournissons, nous, internautes, c'est de l'or. Hein, ce sont ces petites pépites d'or que pouvaient chercher les cow-boys à l'époque du Grand Far West. Voilà, là on est dans un Far West numérique qui dure, qui dure, qui dure, et on voit, ça bouge énormément. Et c'est pour ça qu'il est super important pour les internautes de faire attention.
Oui, tout à fait. Mais de toute façon, je trouve que le RGPD dans son ensemble commence à rebalancer la relation de pouvoir entre les grands groupes et les citoyens qui sont plus ou moins bien informés ou plus ou moins bien outillés pour se défendre contre ces grands groupes. Donc, le législateur, à mon sens, a joué son rôle, c'est-à-dire de rééquilibrer les forces. Et un des aspects que j'adore, c'est l'obligation de réécrire les termes de service, ou en tout cas, politique de service, dans un langage compréhensible.
Ah oui, alors?
Du commun des mortels et non dans un langage légal et compliqué. Juste ça est suffisant pour... C'est une énorme amélioration, là.
Ah, mais t'as complètement raison, hein, parce que quand on peut lire les différentes feuilles, fiches proposées sur qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos droits et devoirs sur un site internet, quand on commence à lire, on se dit, mon Dieu, il va falloir que je refasse intégralement mes études de droit, je ne comprends pas tout. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr quand même que l'internaute qui a entendu parler aille les lire, justement, ces notices, en se disant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Prends juste l'exemple des réseaux sociaux, hein, le RGPD va aussi imposer aux entreprises, on va prendre Twitter, on va prendre Facebook, mais on va prendre aussi, je sais pas moi, des chaînes de télévision pour enfants, on va prendre Disney, en tout cas tout ce qui concerne nos enfants, hein, eh bien les moins de 16 ans, pour rappel, à partir du 25 mai 2018, les parents devront donner leur accord explicite sur l'inscription de leurs enfants et des données qui seront collectées. Quand je vois le nombre de Facebook ouverts par des mômes, par des enfants de moins de 13 ans, mais voire aussi de 14, 15 ans, ça va être très compliqué à Facebook, par exemple, de refaire une par une ces pages, parce qu'on se doute bien qu'en plus les mineurs n'ont pas donné leur véritable âge, et que je doute qu'un mineur, qu'on le veuille ou non, sur 10 mineurs, il y en aura au moins la moitié qui n'ont pas envie d'en parler à leurs parents, parce que c'est leur petit jardin secret. Ça va être super intéressant aussi à suivre, ça. Hein.
Ouais, il y a des ramifications légales qui vont être faites, surtout pour les enfants qui vont être fascinante à observer. Puis de toute façon, pour faire du pouce sur ce que j'ai dit, c'est que l'effet intéressant en tant que Nord-Américain, c'est qu'on bénéficie de cette loi-là parce que nous aussi, on voit nos termes of service, les termes de service qui sont mis dans un langage correct. Donc, ce qui fait que la société le mondial bénéficie de cette avancée européenne au niveau des lois. Ils vont devoir rehausser la protection de la vie privée de façon générale, puis pour bien des compagnies, ça va être plus simple d'aborder la façon européenne de gérer les choses que d'aller créer un modèle européen, créer un modèle pour le restant du monde. Donc, je pense que c'est un bénéfice complet. Maintenant, on est capable de télécharger le contenu de ce que Facebook a sur nous, on est capable d'avoir l'ensemble des choses. Donc, c'est un ensemble de bénéfices énormes. Puis pour revenir à ce que tu disais sur les enfants, ça va être un casse-tête parce que je sais que tes enfants ont plus que l'âge limite, donc les autres sont dans le spectre légal. Les miennes ne le sont pas tout à fait encore dans le spectre légal selon le RGPD, donc mais demeure qu'ils sont quand même des utilisateurs assez importants de certains nombres de réseaux sociaux selon la mode dans laquelle ils sont. Donc pour ces réseaux sociaux-là, ça va être un bordel monumental à contrôler ou gérer ce genre de moment-là.
Alors, ce qui est rigolo, entre guillemets, hein, c'est que certains ont voulu faire de la résistance. Ils ont voulu se dire, ah, d'accord, il y a le RGPD, donc tous les Européens qui vont venir chez nous vont être un véritable boulet à notre cheville en cas de problème. Et il y avait donc un site Internet. Alors, j'en parle là maintenant, mais le site Internet ne fonctionne plus depuis quelques jours. Ne me demandez pas pourquoi. Toujours est-il que ça s'appelait GDPR Shield. Alors GDPR, hein, c'était l'acronyme en anglais hein, de GRPD, c'était une application qui permettait de bloquer toutes les connexions venant d'Europe. C'était très certainement un fake, ou en tout cas un moyen de dire « on veut pas de ça », parce que je vois très mal aujourd'hui des sites basés aux États-Unis, mais aussi au Canada, mais aussi en Asie, se refuser une clientèle européenne, soyons très clairs. Mais ça montre que comme tu le disais, tout le monde a commencé à réfléchir et se dire, est-ce que ça va vraiment apporter un gros positif, un gros plus pour tout le monde? On va être très honnête, hein, c'est clairement ça. Ça va apporter, en tout cas, pour l'utilisateur, un véritable nouveau bouclier. En tout cas, quelque chose qui va un peu mieux le protéger. En tout cas, un petit peu mieux protéger ses données personnelles.
Pour l'utilisateur, effectivement, l'avantage est énorme. Je comprends que pour les compagnies, c'est un casse-tête nouveau parce que on passe d'un régime où c'était littéralement le Far West, où rien n'était contrôlé, on faisait ce qu'on voulait. On annonçait un service, oui, on va collecter vos informations, mais on a fait genre que A avec les informations. Mais finalement, il y a, au cours du temps, les gens, disons, souvent le marketing avait une idée secondaire, donc reprenaient les mêmes informations et finissent par faire d'autres choses. Puis finalement, nos informations personnelles finissent par atterrir à un endroit qui était tout à fait contraire à ce qu'on avait donné comme autorisation initiale. Donc ça va obliger les firmes à réfléchir de façon plus intense et plus profonde sur l'utilisation de nos informations.
Alors, ça, c'est clair. Et puis, il y a des vrais bénéfices pour les internautes. Là, aujourd'hui, on se dit vraiment, moi, internaute, toi, internaute, nous, internautes, on a maintenant véritablement un sac de billes qui permet de nous protéger. On a véritablement des droits qui permettent de se dire, on ne va pas me voler mes informations, on va pas les détourner, on va pas les dénaturer. Alors, ces renforcements de protection, déjà, on va les rappeler, hein, parce que ça permet. Mais mettez-le-vous vraiment en tête, hein, ça vous permettra aussi, dans un magasin, j'ai eu un exemple très concret la semaine dernière avec mes filles. On rentre dans un magasin et mes filles sont en train de regarder des vêtements, et elles vont payer, hein, c'est aussi ça, apprendre à nos jeunes à gérer leur argent et puis savoir à économiser, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout acheter. Donc voilà, on fait des petits exercices comme ça et elles vont donc voir la vendeuse qui leur propose, elles sont mineures, hein, elle leur propose de leur faire une carte de fidélité. Je suis intervenu jusqu'au moment où la personne leur demandait de valider l'ensemble des informations qu'elles avaient fournies. Mes filles sont entraînées. Elles ont fourni un nombre d'informations qui sont toutes tirées du film La Guerre des Étoiles. Mais quelqu'un qui n'est pas entraîné, ou quelqu'un en tout cas qui a confiance, parce qu'après tout, ces cartes peuvent être utiles pour des économies, et peu importe. Non, pour un mineur, on ne demande pas ce genre d'informations. On attend que les parents donnent leur feu vert. Et donc ça, c'est la première chose. Que ce soit sur Internet, sur les Internets, mais aussi dans la vie de tous les jours, contrôlez les informations qu'on vous demande. Est-ce que vous avez besoin de jouer à tout? Est-ce que vous avez besoin de cette carte de fidélité qui vous promet monts et merveilles? Donc voilà, donc ça c'est déjà ces premières choses. Ensuite, n'oubliez pas, avec le RGPD, les entreprises doivent recevoir un consentement écrit, clair et explicite des internautes avant tout traitement de vos données personnelles. Donc, si vous n'avez pas dit « oui, je veux bien que vous preniez mes informations personnelles pour du marketing pour me faciliter ma vie sur votre site web », si vous n'avez pas clairement, explicitement écrit « ok », il est hors de question qu'ils collectent. Alors, comme je vous disais, hein, pour les mineurs, les parents doivent fournir leur autorisation. Ça, c'est du clair et net. Ah, c'est aussi le droit d'être...
Ouais, ça va être... Puis pour revenir sur l'épisode qu'on a fait à Lille, d'ailleurs... Ça va être, mm-hmm. c'est le bordel parce que les jeunes ne respectent pas ça. Puis dire aussi jeunes que 9 ou 8 ans sont déjà sur les services qu'on a. Donc, ça va être un casse-tête infernal pour ces compagnies-là pour bloquer parce qu'ils, fondamentalement, ils ne voudront pas se faire poursuivre. Parce que si on apprend que disons, Facebook, Instagram ou Snapchat tolèrent des enfants qui ont moins de 13 ans sans consentement parental et qui sont des citoyens européens, ça va exploser.
Ah ben les parents vont se retourner contre les entités, hein, vont se retourner contre les sites. La loi elle sera avec eux et dans tous les cas ils vont déjà se poser des questions. Hein. Comment se fait-il que ce mineur et donc leur enfant et puissent s'y inscrire? Ils vont et certains vont sauter sur l'occasion parce que ça sera un moyen aussi malheureusement de faire plier des géants, mais aussi éventuellement pour certains dans les plus malveillants de ceux qui tenteront la chose, eh bien de gagner de l'argent. Hein. Les class action autour de tout ça, ça va être intéressant aussi à suivre.
Ah, définitivement, ça va être un des mois très intéressant.
C'est ça.
On va aller vers des cas concrets parce que tu m'as quand même listé quelques cas concrets qui vont peut-être aider à coller l'effet du RGPD dans le réel.
Ah, c'est ça. Ben c'est ça l'idée. C'est qu'on, je me suis mis dans la tête de nous internautes et voilà dans quel cas le RGPD pourrait apparaître. Donc nous en tant qu'internautes, mais aussi éventuellement en tant que médecin, avocat, juriste. Dentiste, comptable, voilà ce qui pourrait aussi vous toucher par le RGPD. D'abord, il faut rappeler que pour nous, internautes, on aura le droit d'être informé en cas de piratage, de fuite, de perte de données. Et ça, moi, je peux vous le dire, ça fait plus de 20 ans que j'alerte des entreprises bénévolement pour leur dire, vous avez vu qu'il y a des fuites de données de vos clients? J'en connais très peu qui ont alerté leurs clients. Alors, vous savez, les trois petits singes, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Ça, ça va enfin changer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, l'entreprise qui possède des données qui ont fuité, qui ont été lues, on va voir les cas concrets là dans quelques instants. On va prendre un exemple d'une entreprise, une petite et moyenne entreprise qui a 15 000, 20 000 clients. Eh bien, elle va devoir alerter l'ensemble de ses clients. Alors, imaginez, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur envoyer un courrier par la poste avec ce qu'on appelle le recommandé. Donc, ça veut dire s'assurer que la personne impactée par cette fuite de données ait bien reçu le courrier. Donc, ça, ça a un coût. 5-6 €. Donc, ça fait 9-10 $ canadiens. Multiplié par 15 000, 20 000, 100 000 clients. Donc, déjà là, le coût pour l'entreprise va être loin d'être négligeable. Imaginons que 10% de ses clients décident de déposer plainte, etc., etc. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe, hein, on tape souvent sur les Américains. Les Américains ont ce genre de loi, hein, depuis très longtemps. Je prends par exemple la Hightech Act. C'est quoi? On prend l'exemple du ministère de la Santé de l'oncle Sam, hein, qui répertorie toutes les fuites des données ayant touché des hôpitaux, des cliniques. Alors on vous mettra le lien sur sécurité.fm. Vous verrez que il répertorie tous les sites internet, toutes les entreprises de la santé américaine qui ont été impactées. Là, je vais vous en donner quelques-uns, hein, juste comme ça pour rire, entre guillemets. Mais là, le 8 mai dernièrement, c'est le USA Management Group qui a perdu quoi? 15 000 mails. Eh bien, ils ont été obligés d'alerter les 15 000 patients. Et en plus, ils ont dû être obligés d'alerter les autorités. Et en plus, ils sont maintenant mis sur le site du ministère de la Santé aux USA pour dire, ben voilà, cette entreprise a perdu plus de 15 000 mails. Donc ça, c'est ce qui va arriver aussi chez nous en Europe. Et ça, je vous le cache pas, c'est enfin une excellente idée. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, vous allez par exemple sur Zata, mon blog, et vous verrez là la partie protocole. Eh bien moi, depuis 20 ans, je mets le nom de l'entreprise et je dis voilà ce qui a fuité, voilà comment elle a corrigé. Parce qu'il faut pas taper non plus aussi sur les entreprises petites et moyennes. Hein. La fuite de données, l'erreur informatique existera toujours. Ce qui est très important, c'est de savoir comment elles ont fait avant pour vous protéger, comment elle a agi pendant la découverte de cette fuite, et ensuite, qu'est-ce qu'elle va mettre comme procédure après. Là, ça montrera aussi le sérieux. Alors, côté cas concret, hein, je vous en ai listé quelques-uns, ces cas concrets, parce que ça vous montre que tout le monde va être impacté. Alors, je vous parlais de l'infirmière. Ben, c'est simple, ça c'est pour mes amis, mes cousins du Grand Nord, c'est le centre de santé de Winnipeg, il y a quelques semaines, a été obligé d'alerter les patients. Pourquoi? Eh bien, une infirmière très honnête, elle fait son métier, qui travaille pour les urgences, sauf qu'elle a consulté des données de patients hors du périmètre où elle avait l'autorisation de le faire. Alors très certainement que cette infirmière était en train de regarder des données de santé d'un de ses patients pour le travail, sauf qu'il n'était pas dans le périmètre autorisé. Le périmètre des urgences donc. Eh bien du coup, ça rentre dans le RGPD, et ça rentrera dans le RGPD en Europe. Autre exemple, là c'est pour nos amis australiens. Oh, c'est un petit détail, hein. C'est la banque du Commonwealth. Elle a juste perdu les antécédents financiers de 12 millions de clients. Mais quand je vous dis perdre, c'est quoi? C'est, vous savez, on voit dans les films les grandes bobines, comme les cassettes audio qu'on avait il y a encore quelques années. Eh bien, ces grandes bobines étaient la sauvegarde de 12 millions de clients et surtout leurs antécédents financiers. Ça a été perdu. Imaginez qu'en Europe, ou alors une entreprise canadienne contenant des données d'Européens, et qui a 12 millions de clients, il va falloir alerter les 12 millions de clients. Je ne sais pas si vous imaginez le coût en rien qu'en frais postal. Alors, je ne vous parle même pas non plus après des assurances. Je ne vous parle pas non plus de ce fameux 10% de clients qui pourraient déposer plainte, etc., etc. Autre exemple, les ransomware. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. C'est plus trop à la mode. Oui, enfin, c'est plus trop à la mode chez nous. Par contre, chez les pirates, ne vous inquiétez pas, il y en a toujours autant. Eh bien, imaginez qu'un ransomware s'invite dans un hôpital, dans un cabinet d'avocats, un cabinet d'experts comptables. Il va falloir que ces gens soient capables de dire quelles sont les données qui ont été impactées. Oh, mes fichiers patients, mes fichiers clients. Oui, mais combien? Qui? Quoi? Depuis combien d'années? Parce qu'il aura fallu penser en amont où je sauvegarde, comment je sauvegarde, comment je protège et comment je détruis des données qui n'ont plus à être là. Eh bien, imaginez cet expert comptable qui a peut-être 3-7 000, allez, on va dire clients. Il va falloir qu'il alerte en France la CNIL. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en Belgique, la Commission de la protection de la vie privée, au Luxembourg, le CNPD, peu importe, alerter donc ses entités judiciaires, mais aussi contacter ses clients, et donc faire une communication de crise derrière. c'est un coût, tout ça.
Oui, puis je dirais que cet exemple-là est fort intéressant parce que l'aspect du RGPD qui, puis à mon sens, c'est très important, c'est la traçabilité de l'information qu'on possède et ça va nous amener au fait qu'on va devoir se débarrasser des informations qui ne sont plus nécessaires.
Clairement.
Donc, ce que les compagnies ne font pas à l'heure actuelle.
Et les compagnies, et on en parlera à la fin, mais les associations aussi, mais aussi les écoles, mais aussi, je sais pas moi, des clubs de sport. Un exemple très concret, dans les cas concrets justement. Je travaille dans une mairie, je travaille dans une entité qui reçoit du public. Des mineurs justement. J'ai collecté des informations, les noms, les prénoms, les adresses, les états de santé des enfants, qui vont participer au club de loisirs par exemple. Ces données devront être détruites. Il est hors de question qu'elles restent 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, parce que dans 10 ans, on se dit, on les recontactera pour fêter l'anniversaire de notre club de sport. Non, tout ça doit être détruit. Et si ça doit être gardé pour des questions judiciaires, par exemple, ou économiques, ou légales, il faut que ça soit sauvegardé dans des endroits sécurisés, chiffrés, non accessibles à des personnes non autorisées. Ça, c'est super important ce que tu disais, Nicolas. Il faut y penser à tout ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Penser aussi à ses partenaires. Pensez aussi à ces sociétés qui sont partenaires de votre business, de votre entreprise, de votre association. Le partenaire, c'est qui ? Je vais vous prendre un exemple très concret qui a été vécu en France il y a quelques semaines. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans l'un de nos podcasts, sur, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur sécurité.fm. Et ben, c'est simple, c'est une société d'électroménager qui fait appel à un prestataire de service qui va s'occuper du service après-vente. Si la société qui vend du matériel, des frigos, des télés est sécurisée, mais pas son partenaire, le partenaire a laissé fuiter des données des clients de l'entreprise qui vendait la télé. Le problème, c'est que la Commission informatique et liberté, bien sûr, tape sur les doigts du partenaire, mais aussi de l'entreprise qui a fait appel à ce partenaire. Parce que maintenant, vous, entreprise, comme vous, petite et moyenne entreprise, mais aussi vous particuliers, il faut veiller à qui on donne les informations. Et où vont-elles être sauvegardées? Et à qui vont-elles être partagées? Et ça, ce sont des éléments qui sont loin d'être négligeables.
Ouais, effectivement, c'est un des éléments aussi dans la suite, toute la définition de possession et de manipulation de l'information dans le RGPD qui fait que autant le propriétaire fiduciaire de l'information que tous les traitements associés sont liés très fortement avec... l'obligation de conformité avec RGPD.
Donc voilà, tu vois, c'est quelque chose, c'est un rouleau compresseur là qui vient d'être lancé. Imaginez, fermez les yeux 30 secondes, vous êtes sur une pente de montagne, vous êtes au sommet, vous êtes au volant d'un gros rouleau compresseur et vous espérez que les freins vont tenir. Et le rouleau compresseur, croyez-moi, il va avancer. Maintenant, il faut espérer qu'il n'écrasera que des cailloux qui rendront cette route un petit peu plus droite. Voilà, c'est tout ce qu'on peut maintenant espérer. On est protégé, on a des entités qui sont protégées. Maintenant, elles n'ont pas toutes obligatoirement des budgets faramineux. Il faut que les entreprises, quelles qu'elles soient, pensent véritablement à mettre en place ce fameux DPO, hein, vous savez. C'est donc cette personne qui aura en charge de référencer, de répertorier, de s'assurer que toutes ces données collectées, donc de ces données personnelles, soient protégée, sauvegardée, détruite en temps et en heure. Voilà, ça promet, je pense en tout cas pour les juristes, de longues soirées interminables. Ah, et je ne vous parle même pas pour les autres. Après, maintenant, nous, utilisateurs internautes, hein, comme fait tout le temps, pensons à ce dessin animé de Walt Disney où le serpent regarde les gens dans les yeux et dit « Aie confiance
». Ouais, effectivement, c'est pas nécessairement très rassurant, tout ce genre de choses-là, mais on va avoir un changement dans le paysage qui va être très intéressant. C'est sûr que les juristes vont avoir peut-être un peu plus de cheveux blancs à la sortie de tout ça. De ça, il y a des conséquences aussi quand les compagnies se font attraper. Puis de quelle nature ces conséquences-là s'appliquent?
Alors, toutes les entreprises qui se font attraper, il faut savoir qu'il y en a déjà eu quelques-unes qui se sont fait avoir. Elles se sont fait rattraper par la loi qui existait déjà et qui existe déjà. Hein. Je prends l'exemple en France. La loi informatique et liberté et des libertés a déjà condamné, par exemple, Hertz France à quelques dizaines de milliers d'euros parce qu'elle n'avait pas protégé correctement des données qui fuitaient. Darty s'est fait condamner à 100 000 euros parce qu'elle n'avait pas mis au pas l'un de ses partenaires qui lui-même a fuité. Voilà, donc il y a déjà eu des amendes, il y a eu déjà des alertes hein, par des avertissements publics. Voilà, ça a été égrené pendant une petite année ici en France pour bien faire comprendre que la CNIL, la Commission informatique et des libertés, est présente, que le RGPD doit s'appliquer pour tout le monde et que celui qui ne répondra pas correctement à ce qui était mis en place, et je vais être très honnête, hein, la Commission informatique et libertés, mais comme les autres CNIL européennes, ont fait un excellent travail d'information, même si pour certains cas, c'était un petit peu difficile à lire pour des personnes qui ne sont pas habituées. Mais en tout cas, il y a des outils, il y a même des cours en ligne gratuits qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Je ne parle même pas de ces nombreux experts qui sont apparus experts des données privées alors qu'on ne les avait jamais vus il y a encore un an. Mais toujours est-il que voilà, il y a de l'information, il y a du contenu. À partir du 25 mai 2018, ceux qui ne répondront pas correctement au RGPD, il ne faudra pas qu'ils se plaignent. Mais j'ai peur, malheureusement, qu'il y ait quelques fesses rouges et pas mal de peur.
C'est inévitable. Les gens, je pense pas qu'ils vont bouger très rapidement, mais cela étant dit, ça, les premiers cas vont être les exemples pour les suivants.
C'est ça.
Ça fait pas mal le tour de ce qu'on a discuté pour cette fois-ci. Là, on est encore dans les phases pré-RGPD. J'imagine là, on va avoir beaucoup de lieux à discuter post-RGPD, c'est-à-dire quand cette loi-là va être vraiment en application dans... nous autres, au moment de l'enregistrement, c'est dans 12 jours. C'est sûr que ça va avoir lieu beaucoup de jurisprudence qui vont émaner de ça et beaucoup d'éléments très intéressants qui vont, j'imagine, avoir des ramifications mondiales qui vont changer un peu que la façon que les gens vont gérer nos informations avec beaucoup plus de parcimonie qu'ils le font habituellement.
Comme on voit dans les films, à suivre.
Tout à fait à suivre. Fait que sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine.
À ciao, ciao!
Ciao!